Dialogue sur la mort. Une émission proposée par Christian de Cacret.
Amis auditeurs des Dialogues sur la mort et donc sur la vie, bonjour. Notre invité aujourd'hui est un homme qui non seulement a été privé de son droit d'assistance à son père mourant, mais aussi des rites d'adieu les plus élémentaires lors de son décès en pleine crise sanitaire. Hanté par ce qui lui a été volé, ainsi qu'à sa famille, révolté par la solitude dans laquelle son père a été maintenu, il a transformé sa détresse en une mobilisation. Il est en effet le cofondateur du collectif Tenir ta main, qui défend le droit de veiller sur ses proches hospitalisés et soutient les trop nombreux patients laissés pour compte en leur apportant une aide à la fois psychologique, juridique et matérielle. Laurent Frémont, bonjour.
Bonjour Christian.
Alors même si c'est toujours douloureux de l'évoquer, peut-être pourriez-vous commencer par nous raconter ce qui s'est passé dans cette terrible crise sanitaire en novembre 2020 avec votre père chirurgien âgé de 70 ans.
Oui, donc mon père a été hospitalisé dans une clinique d'Aix-en-Provence. D'emblée, on nous a dit qu'on ne pourrait pas être à ses côtés, que les portes seraient fermées. Donc on a essayé plusieurs fois de se présenter, d'accéder jusqu'à lui, mais en raison de la période, en raison d'une forme de fébrilité, il y avait cette toute puissance sanitaire qui nous interdisait de rentrer dans le service. Et donc mon père a passé ses derniers jours seul, et il est mort seul, et on n'a pas pu donc être à ses côtés, ni avant, ni après son décès. Et en plus, on était dans une période où les obsèques étaient rendues difficiles. Et donc, on a dû organiser des obsèques clandestines dans notre jardin pour que ses proches puissent au moins l'accompagner une dernière fois.
Est-ce que c'est à ce moment-là, dès ce moment-là, que vous vous êtes dit « je vais me mobiliser, je vais prendre la parole, il faut que quelqu'un en parle »
En fait, il y a eu un moment de sidération. Déjà, c'est toujours surprenant d'apprendre le décès brutal de son père, mais en plus, dans ces conditions, quand on a du mal à le réaliser. Mais c'est en voyant un autre témoignage, deux mois plus tard, que je me suis rendu compte que finalement, c'était pas malheureusement un cas isolé. Et donc, j'ai fouillé un peu les textes de droit, notamment, et je me suis rendu compte qu'il y avait, depuis le début de la crise, énormément d'abus sur le droit de visite aux patients et aux résidents en EHPAD. Et qu'il y avait aussi un scandale absolu sur l'interdiction des rites funéraires.
On va revenir sur ces interdictions, mais je voudrais vous demander... Aujourd'hui, 5 ans après, comment est-ce que vous vivez votre deuil?
C'est difficile à dire. Je ne sais pas si je pourrais en parler aussi simplement. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a, il y a quand même le sentiment d'un manque. Puisque c'est toujours une étape importante de perdre ses parents, et son père en particulier. Et le fait de ne pas avoir été là, de ne pas avoir eu de derniers échanges, et surtout d'en avoir été privé, c'est évidemment une forme de culpabilité et de révolte, et qui, effectivement, a pu se transformer en une forme de mobilisation, mais plutôt en hommage à mon père, qui était un soignant, pour le coup, très, très investi auprès de ses patients, et très, très engagé dans ses relations humaines.
On a un peu évoqué, là, ces derniers jours, 5 ans après, l'attitude des pouvoirs publics, mais sans doute pas suffisamment, pendant cette période. Comment expliquer tous ces interdits? Comment expliquer, notamment, je trouve, cet acharnement, si je puis dire, contre le corps mort? Parce qu'enfin, on savait bien que c'est une maladie qui se transmettait plutôt par les postillons, enfin des choses que...
Oui, par voie respiratoire.
Par voie respiratoire, qui sont liées donc à la vie. Mmh. Pourquoi est-ce qu'on a focalisé à ce point sur le corps mort, d'après vous?
En fait, c'est très intéressant... Parce que donc j'ai repris tous les textes de cette époque. Et c'est vrai qu'il y a un premier décret qui est très, très dur en début de crise, parce qu'on ne connaît pas grand-chose sur le virus. Obligation de la mise en bière immédiate, interdiction des soins funéraires, interdiction des soins rituels, interdiction de la présentation du corps. Mais quelques jours après, le Haut Conseil de Santé publique publie un avis dans lequel il dit que la contagiosité des dépouilles n'est pas prouvée. Et d'ailleurs, elle ne le sera jamais. Mais pour autant... malgré ces avis, malgré les appels à l'aide des familles, malgré les centaines de milliers de personnes qui ont été privées d'un accompagnement digne, le gouvernement, pendant un an, reprend toujours des décrets qui parfois aménagent. On a eu le droit à un moment d'ouvrir le sac mortuaire sur 15 cm pour pouvoir voir le visage. Parfois aménagent, mais la plupart du temps maintient les interdictions. Et donc il faut attendre fin décembre 2020, donc près d'un an après, pour que le Conseil d'État finisse par annuler ces dispositions, considérant qu'elles étaient abusives. Mais pour autant, il y a certaines pratiques qui vont se perpétuer pendant toute la suite de la crise. Et comment l'expliquer ? Ben ça reste un mystère. C'est vraiment une approche hygiéniste qui a montré toute sa froideur, toute sa puissance. Aussi une forme d'entêtement de l'État. C'est comme si certains découvraient les pouvoirs qui leur avaient été attribués, surtout en période de crise, et en abusaient largement. Comme vous le savez, ça en dit long aussi sur la place qu'on accorde à la mort dans notre société.
C'est ça, il y a quelque chose de l'ordre du rapport à la mort dans tout ça. Parce que vous avez cité le mot d'hygiénisme, il me semble que les lois et les règlements qui régentent le domaine funéraire sont très largement inspirés par l'hygiénisme. C'est le sujet majeur. Donc ça a précédé cette crise, mais cette crise n'a fait que faire éclater au grand jour cette réalité.
Oui, c'est un peu l'aboutissement, effectivement, de tendances plus lourdes de la société. Enfin, tout ça n'est pas apparu par hasard. C'est finalement un moment où on a révélé, au sens chimique du terme, notre conception très biologique de la vie humaine et en particulier de la mort.
Alors, dans l'interdit, malheureusement, pour ceux comme vous qui en avez été victimes, mais se révèle aussi quelque chose, dans la frustration, c'est l'importance des rites. C'est-à-dire que là, c'est l'être qui crie sa détresse absolue. C'est-à-dire qu'au fond, on pourrait dire que plus jamais ça, plus jamais les pouvoirs publics ne peuvent se permettre de dire « n'allez pas aux enterrements ».
Pour le coup, on a essayé d'étudier ce qui s'était produit dans l'histoire. Et on peut dire que jamais, à aucun moment de l'histoire, on a prévu de telles interdictions. Enfin, là, ça nous ramène à Antigone. Même pendant la peste noire, même pendant les pires pandémies, on respectait toujours le défunt et on respectait les rituels qui sont effectivement capitaux pour maintenir une forme de distance entre la vérité crue de la mort et la société, qui sont là aussi pour organiser, pour encadrer le deuil. Et c'est fou qu'on ait pu les interdire d'un trait de plume, et qu'on ait pu imaginer que limiter des obsèques à 9 personnes qui devaient se tenir à distance et se passer de tant de centimètres, c'était finalement une bonne manière de conjuguer les rites qui nous sont vraiment familiers et anthropologiquement ancrés, et une forme de précaution.
Comme je l'ai dit en vous présentant, vous avez transformé votre rage, finalement, enfin en tout cas votre détresse, en une démarche altruiste. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur cette démarche altruiste ? Parce que quand j'évoquais la solitude, l'absence de visites dont souffrent beaucoup de gens hospitalisés, dans les EHPAD, etc., tenir ta main, c'est une belle promesse, mais qui est difficile à réaliser, parce qu'il faut des êtres humains pour tenir la main d'un autre être humain.
Effectivement, c'est un sujet extrêmement, extrêmement large et compliqué. Et donc, nous, on a décidé vraiment de s'attaquer à ce qui était faisable. Et donc, déjà, pendant la pandémie, on a recueilli des témoignages. On en a recueilli plus de 10 000. Et on les a publiés, on les a fait lire par des grands acteurs. On a fait une chanson avec un grand chanteur. Et le but, c'était tout simplement de donner la parole à ceux qui étaient écrasés par toutes ces règles, parce que beaucoup de gens n'ont pas la chance d'avoir forcément accès aux médias, ou même ne sont pas en capacité d'exprimer leur douleur. Donc tout simplement pour leur donner la parole, on s'est réunis, on a fait des concerts de Requiem, on a fait un mémorial. Tout simplement pour entourer les gens, c'était déjà une bonne première étape. Et puis très concrètement, on a travaillé pour changer la loi, parce que voilà, c'est aussi mon métier, donc c'est ce que je savais faire, pour changer la loi sur le droit de visite. Et donc ça a été... Après un rapport que j'ai rendu au gouvernement en 2023, ça a été inscrit dans la loi il y a un an. Donc le droit absolu aux visites, aux patients et aux résidents, sachant que ce droit est quotidien et qu'il est même absolu à l'approche de la mort. Et donc c'est ce qu'on a pu faire d'un point de vue effectivement textuel, d'un point de vue juridique, parce que c'est ce qu'on savait faire, ce qu'on pouvait obtenir. Mais de fait, le chantier est encore immense pour que les gens s'approprient ce droit, ce droit de visite.
Parce qu'en dehors du contexte de la crise sanitaire, qu'est-ce qui peut s'opposer à ces visites ? La technicité médicale ?
Oui, en fait, à l'occasion justement de cette crise, on a découvert qu'il y avait un grand vide juridique et que les directeurs d'établissement pouvaient fermer leurs portes de manière assez arbitraire. Donc avec ce texte, on est venu clarifier les choses et on reconnaît que c'est un droit fondamental, surtout en EHPAD, parce que ça reste un domicile privé, mais aussi à l'hôpital, donc droit à une visite quotidienne. Donc on comprend qu'il y ait les nécessités du service, on comprend qu'il y ait parfois des contraintes, mais l'essentiel, c'est de maintenir le lien à tout prix. Et on voit bien que, du fait de la crise, il y a certains comportements qui sont installés, donc on a tendance aujourd'hui à refermer très vite les portes. et on peut voir tout l'effet catastrophique que ça peut avoir aussi bien sur les patients que sur les personnes âgées, donc tout ce qui est syndrome de glissement, syndrome d'abandon, etc. Et donc l'idée, c'est que plus jamais on ne puisse fermer les portes des EHPAD ou des hôpitaux.
Et puis enfin, Laurent Frémont, vous faites un lien entre ce qui s'est passé en 2020 et le projet de loi en faveur du suicide assisté et de l'euthanasie. Quel est ce lien ?
En fait, le lien m'est apparu de manière assez évidente, tout simplement parce que le député qui a le plus milité pour l'interdiction des rites funéraires est aussi le député qui porte cette loi, qui s'appelle Olivier Falorni. Et donc, je me suis interrogé sur cette coïncidence. Et de fait, je trouve que ça correspond à la même vision de la mort.
C'est-à-dire, enfin, allez-y, développer, parce que c'est que ça interpelle. Enfin, c'est pas tout à fait spontané comme lien.
Oui, tout à fait, mais j'aurais peut-être du mal à l'exprimer finement, mais je trouve que ce qu'on a mis en place pour encadrer la mort, c'est un peu la même logique que ce qu'on veut mettre en place sur l'euthanasie et le suicide assisté, c'est-à-dire que on veut finalement couper toute forme de liens, on veut tout planifier, tout encadrer, tout réglementer.
Et puis peut-être couper l'être humain de cette réalité de sa finitude.
Oui, voilà, c'est une manière aussi de cacher la réalité de la mort. Donc là, on veut mourir sur scène, on veut mourir en bonne santé, choisir son moment, etc. Et donc, je pense que ça participe de la même logique. Le déclenchement, c'est qu'il y a eu cette proposition de loi sur l'euthanasie en mars 2021, alors que les gens mouraient encore seuls. Et donc, on pouvait que réagir. Il y aura de question de prévoir d'abandonner les gens à la piqûre létale lorsqu'on n'est pas en mesure de les accompagner.
Merci Laurent Frémont. Je rappelle que vous êtes cofondateur du collectif Tenir ta main.
Merci.
Nous continuons nos programmes avec Halte spirituelle, Véronique Alzieu.
Le pape François a appelé à la remise de la dette à l'occasion de l'année jubilaire. Est-ce une utopie ? Est-ce possible ? Comment comprendre cette notion au niveau international et collectif ? On en parle avec le frère dominicain Jacques-Benoît Raucher dans Halte spirituelle dans un instant.
Thank you.